La personne humaine est une forteresse inexpugnable.
À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.
Écoutez.
Avec la même grâce.
Vous êtes sur France Culture.
La radio.
France Culture.
Le feu teinte dans les cloches.
Vous écoutez.
Et la parole.
France Culture.
La radio.
La clé des nuits, les airs enchaînés.
Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Nous écoutons cette semaine la suite du cours que le professeur au Collège de France, John Shedd, titulaire de la chaire Religion, Institutions et Sociétés de la Rome antique, consacre au livre de Plutarque intitulé « Questions romaines » qu'on peut trouver dans la bibliothèque classique du livre de poche. Ce livre est constitué de 113 questions sur les institutions, les mythes et les coutumes des Romains, ainsi que les réponses multiples que Plutarque propose sous forme d'autres questions. Par exemple, celle-ci qui est la première, « Pour quelle raison ordonne-t-on à la mariée de toucher le feu et l'eau ?» Depuis longtemps, les commentateurs se sont interrogés sur la nature de ce texte. S'agit-il simplement de notes de lecture prises en vue de la rédaction d'un ouvrage ? Peut-on expliquer l'ordre de ces questions qui parfois s'enchaînent thématiquement ? Parfois semble former une suite incohérente. Pour le professeur John Shedd, le texte est une promenade imaginaire dans la Rome antique. La topographie de l'ancienne Rome est l'une des principales clés de l'enchaînement des questions. Suivant le texte, John Shedd reprend le parcours que Plutarque fait faire à ses lecteurs, parcours scandé par les questions qui s'enchaînent, non sans de nombreuses digressions. Après avoir contemplé le forum qui a suscité des questions sur la fondation de Rome et diverses processions, Plutarque entraîne son lecteur vers le temple de Mater Matuta, qui appelle la 56e question sur laquelle s'ouvre le cours.
Pourquoi les mères, les matrones, passent-elles pour avoir fondé à l'origine le temple de Carmenta, et pourquoi maintenant la vénèrent-elles le plus ? On raconte une histoire d'après laquelle le Sénat avait interdit aux femmes de se servir de chariots attelés. Elles convinrent alors entre elles de ne pas se laisser féconder, de ne pas accoucher, en repoussant les hommes jusqu'à ce qu'ils reviennent sur leur décision et leur concèdent ce droit. Quand des enfants naquirent enfin, ou quand le problème, je suppose, était résolu, et comme elles furent mères de beaux et de nombreux enfants, elles construisirent le temple de Carmenta. Mais certains prétendent que Carmenta, la mère d'Evandre, vint en Italie, était nommée Thémis. D'autres l'appellent Nicostratée. Puisqu'elle chantait des oracles métriques, elle fut appelée Carmenta par les Latins. Ils appellent en effet les chants Carmina. D'autres, au contraire, troisième interprétation, pense que Carmenta est une moire, une parque, et que c'est pour cette raison que les mères lui sacrifiaient. Le vrai sens du nom est « privé de raison », littéralement « carensmente », manquant de raison, à cause des transports de l'inspiration poétique ou oraculaire. Il s'ensuit que ce ne sont pas les Carmina qui ont donné son nom à Carmenta, mais c'est plutôt à cause d'elles qu'ils sont appelés ainsi, parce qu'elles chantent, possédés par la divinité, des oracles en vers métriques. Par conséquent, au moment où le lecteur a fini la question 55, il se détourne du forum et amorce la petite promenade qui le mène à l'angle des temples de Fortune et de Mater Matuta, près desquels il faut aussi chercher le temple de Carmenta, comme nous l'avons déjà vu. Malheureusement, ce temple n'a pas été retrouvé. Mais la question est bien plus intéressante encore. Non seulement elle nous révèle pourquoi on tourne la tête ou pourquoi on descend le Vicus Jugarius vers la zone matronale de la porte carmentale, mais elle confirme aussi en quelque sorte la lecture de Dumézil, ainsi que je l'ai dit. On attend en quelque sorte Carmenta au moment où on a lu l'interprétation de Dumézil dans la question 56. Eh bien, Carmenta arrive. Quoi qu'il en soit, la transition entre les questions 54 et 55 se révèle à nouveau soignée. C'est en raison du char, le char des flûtistes et le déguisement féminin des flûtistes, que le lecteur est censé penser aux matrones et à la loi Oppia de 215 avant notre ère, qui interdit aux matrones de se déplacer en voiture attelée, et qui fut abrogée, après une grève terrible, donc si on en croit le mythe, en 195 seulement. En outre, une étymologie du nom de Carmenta, Covid par exemple, donne aussi dans les fastes, la rapproche de Carpenta, voiture attelée. Le troisième élément qui met les matrones en relation avec le joueur de flûte est la privation d'un privilège et la grève successive qui ne cesse que lorsqu'elles ont obtenu satisfaction. En récompense, elles construisent un temple qui rappelle leur grève puisque Carmenta est liée aux naissances de beaux et de nombreux enfants. La transition vers la 56e question est donc bien amenée. Toutes ces données, explicites ou implicites, créent une passerelle évidente vers une question sur Carmenta et sur les matrones. Plus étonnant est le fait que Plutarque paraît lier l'histoire de Carmenta et des Carmentalia, la fête de Carmenta, au Matralia, à la fête de Mater Matuta. Nous avons déjà signalé que Plutarque date les Quinquatrus Minusculae, la fête des flûtistes, de façon erronée du 13 janvier. C'est ou bien une bévue de Plutarque, quand il a copié cela, ou alors la tradition manuscrite de Plutarque, ou c'est une erreur qu'il a prise dans sa source. Mais si l'erreur provient de Plutarque, elle révèle ce à quoi il pensait, puisqu'il met clairement le mythe des Quinquatrus Minusculae en relation avec les Carmentalia du mois de janvier, tout en développant dans la question précédente un récit et un rite lié au Matralia de juin. On voit très bien ce qu'il avait en tête. La question suivante s'insère de toute évidence dans ce contexte. Pourquoi, quand les femmes sacrifient à Rumina, versent-elles du lait sur les offrandes sacrées, mais ne présentent-elles pas de vin? Est-ce que les Latins appellent la mamelle Ruma et disent que Ruminalis est le nom donné à l'arbre auprès duquel la louve a donné la mamelle à Romulus? De la même manière, en effet, que nous appelons celle qui allait les nourrissons nourrice, thélonai, à partir de mamelle, thélé, Rumina, qui était en quelque sorte celle qui donne la mamelle, c'est-à-dire une nourrice allaitante des enfants, ne tolère pas le vin pur, puisqu'il est nuisible aux petits-enfants. Le lien est évident, on passe de Carmenta et des matrones, des mères, à Rumina, qui patronne l'allaitement des nourrissons. Dans la cité de Dieu, dans le passage concernant les dieux fonctionnels, les fameux Sondergötter, chers à Hermann Usna, Augustin passe de façon significative des Carmentes et de Fortune à Rumina. La relation est évidente. Il est toutefois difficile d'associer Rumina et le commentaire qu'en donne Plutarque au secteur où le lecteur est censé se trouver. Il renvoie en effet au Ruminal qui est situé près du Lupercal, où Romulus et Rémus furent nourris, d'après la légende, par la louve. Or ce lieu se trouve sur l'angle du Palatin, qui est voisin du Grand Cirque. Donc le lien me paraît difficile ici, puisqu'on ne voit pas cet endroit, à moins qu'on l'ait vu en hauteur, mais comme on ne connaît pas l'emplacement précis du Lupercal, je ne peux rien dire et je considère que le lien est d'ailleurs si évident, il est thématique. Le lien avec la question suivante est moins évident. Pourquoi parmi les sénateurs, les uns sont-ils dits pères conscrits, les autres simplement pères, patres? Est-ce que l'on appelait ceux qui avaient été choisis dès l'origine par Romulus pères et patriciens, c'est-à-dire de pères nobles, puisqu'ils étaient capables de nommer, de donner le nom de leur père, et sont-ce ceux qui ont été ajoutés plus tard et qui sortaient de familles plébéennes qu'ils ont nommés pères conscrits? La question porte sur l'appellation patres conscripti, littéralement pères conscrits, qui correspond à notre messieurs les sénateurs. C'est ainsi qu'on s'adresse aux sénateurs quand on leur parle collectivement. Le terme se décompose effectivement, comme Plutarque le dit dans son interprétation, en patres et conscripti, pères et conscrits, désignant, semble-t-il, les patriciens d'une part et les nobles plébéiens qui sont entrés plus tard au Sénat. Quel est le lien avec la question précédente? Il s'agit à première vue d'une digression, car la curie au forum mise à part, on ne voit pas à quel lieu rattacher comme cela les sénateurs. Or, nous ne sommes pas au forum, donc il s'agit d'autre chose. Un premier lien thématique est offert par Romulus. La question précédente, à propos de la fameuse louve, n'est-ce pas, qui allaitait Romulus et Rémus, parlait du fondateur et de la louve, et cette question pouvait continuer, ou le questionnement pouvait continuer à envisager une tradition concernant Romulus. Mais comme les questions précédentes traitent de mère, Plutarque, je pense, insère ici simplement une digression tout à fait logique pour se demander pour quelle raison un groupe politique donné était appelé père. Et il développe ensuite une idée à ce propos. Donc une digression thématique. Digression après laquelle le regard se porte vers l'ouest. Pourquoi existait-il un hôtel commun d'Héraclès et des Muses ? Est-ce parce qu'Héraclès a pris l'alphabet aux compagnons d'Évandre, comme le raconte Juba, notre ami Juba, l'érudit roi du Maroc? Et cette action était, Maroc, Mauritanie évidemment, et cette action était considérée comme noble quand on enseignait ses amis et ses parents. C'est longtemps après qu'on commença à enseigner contre un salaire. Le premier qui ouvrit une école élémentaire fut Spurius Carvilius, un affranchi du Carvilius qui fut le premier à répudier sa femme. Le temple d'Hercule et des Muses, ou plutôt le temple d'Hercule des Muses, Hercules Musarum, se trouve dans le dos du lecteur, dans la zone des portiques du quartier du cirque, dit du cirque Flaminius, auquel nous reviendrons tout à l'heure. Il a été fondé en 189 avant notre ère par Fulvius Nobilior, en commémoration de la victoire d'Ambracie. L'association d'Hercule aux Muses est romaine, et elle doit sans doute être comprise à l'époque impérialiste de la fondation de ce temple comme une affirmation brutale de la suprématie totale des Romains, militaire et culturelle à la fois. Comme le dit bien plus tard le rhéteur Eumène dans un panégyrique, 5-7, je cite, « La tranquillité des Muses devait bénéficier de la protection d'Hercule et la vaillance d'Hercule de la voix des Muses, culture et armée romaine, n'est-ce pas ?» Dans ce contexte des questions romaines, outre la proximité topographique par rapport à l'angle du Forum Holitorium et Boarium, pied du Capitole, c'est le rapport d'un dieu masculin avec des déesses qui semblent intéresser Plutarque, comme on le verra dans la question suivante. Que signifie cette association d'Hercule, qui est comme le représentant des valeurs masculines et des muses, qui sont parmi les plus accomplies des femmes, c'est-à-dire des déesses? Par l'orientation de sa réponse, Plutarque choisit le plan culturel et l'enseignement, avec l'évocation de l'école de Spurius Carvilius, inventeur du G, du gamma latin, que nous avons déjà rencontré dans une question précédente, anonymement évidemment, mais on note qu'il trouve moyen d'introduire in extremis, Plutarque, une autre remarque sur une femme, malheureusement sur la première femme répudiée, celle de Spurius Carvilius, le patron du grammairien. La transition à la question suivante est simple. Le regard du lecteur se porte maintenant vers le forum Boarium. Il se retourne tout simplement. Pourquoi, alors qu'il y a deux autels d'Héraclès, les femmes ne participent-elles pas aux offrandes sacrifiées sur l'autel le plus grand et n'y goûtent-elles pas? Est-ce parce que les compagnes de Carmenta arrivèrent en retard? Le groupe familial des Pinarii, la gens des Pinarii, arriva également en retard. C'est pourquoi, écarté du repas alors que les autres banquetaient, ce groupe familial fut appelé les Pinarii, ils peinan, ils jeûnent, ils ne mangent pas, c'est encore un jeu de mots étymologique. Ou bien est-ce à cause de la légende concernant la tunique et Déjanire? Notons tout de suite que le commentaire de Plutarque ou de sa source, peut-être toujours notre Juba de Mauritanie, comme le suppose Herbert Rose, confirme que nous nous trouvons à côté du temple de Carmenta, puisqu'il semble transférer le mythe des Pinarii et des Potitii, le banquet d'Hercule, où les Pinari arrivent en retard, sur les amis de Carmenta, qui ont le même sort, sont exclus de ce banquet. Cette explication ressemble fort à un redoublement du mythe du grand hôtel d'Hercule. L'autre hôtel pose un petit problème. De quel hôtel s'agit-il? De celui d'Hercule Invictus, d'Hercule Émilien, d'Hercule Victor, qui sont tous autour du grand hôtel, ou bien s'agit-il de celui d'Hercule et des Muses? Je crois qu'on peut supposer qu'il s'agit bien de celui-là, puisque nous sommes toujours en rapport avec des digressions ou des discussions concernant les femmes, et que la question 59 montrait Hercule associé à des femmes, les déesses, les Muses. Dans la question suivante, maintenant, Plutarque évoque l'autre hôtel dont les femmes, cette fois-ci, sont exclues. N'est-ce pas? Il arrive par les femmes aux déesses et à Hercule et des Muses. Topographie donne aussi cette idée. Et puis, une fois qu'il a Hercule associé à des femmes, il prend immédiatement, de façon très rhétorique, le contraire, et il prend l'autre hôtel, Hercule, sans les femmes. Et ça donne la tradition du grand hôtel exposé dans la question 60. En tout cas, le thème général est toujours celui des femmes, ouvert depuis le retour à l'angle du Forum Boarium. D'ailleurs, la deuxième raison donnée par Plutarque rapporte la misogynie d'Hercule à une origine grecque, à la traîtrise de Déjanire et de sa tunique, qui causa, comme vous le savez, la perte du héros. C'est en raison de ce thème général sous-jacent à toutes ces questions et le fait qu'elles soient posées dans le lieu des rites matronaux près des temples de Mater Matuta et de Carmenta qui me fait penser, donc ce fait me fait penser que la question 58 s'insère dans ce contexte et analyse les pères en tant qu'ils sont différents des mères et ont des privilèges que celles-ci n'ont pas. Il s'agit donc bien d'une digression. Dans les autres questions, ces développements sont en outre rattachés à la topographie voisine. Lisons la 61e question pour vérifier si la déambulation continue d'être attestée. Pourquoi le nom de la divinité, masculine ou féminine, qui était tout particulièrement chargée de protéger et de regarder Rome, ne devait pas être cité, recherché et précisé? Il rattache cette défense à une crainte superstitieuse, car il raconte que Valerius Soranus connut une mort misérable parce qu'il avait révélé ce nom. Est-ce parce que, comme le racontent certains Romains, il existe des invocations magiques des dieux grâce auxquelles ils croient que certaines divinités, des ennemis, avaient été invoquées et transférées chez eux et qu'ils avaient peur de subir le même sort de la part d'autrui? Donc, de la même manière que les Tyriens, les citoyens de Tyr passent pour entourer les statues des dieux de Lien, pour les enchaîner au temple pour pas qu'ils se sauvent, et d'autres pour demander des garanties quand ils envoient leur dieu au bain ou à quelque purification. De même, les Romains considéraient que le moyen le plus sûr et le plus efficace pour garder une divinité était de conserver son nom secret et inconnu. Ou bien, comme Homère l'écrit dans son vers « La terre est commune à tous », est-ce afin que les hommes vénèrent et honorent tous les dieux, puisqu'ils sont maîtres communs de la terre, que les anciens Romains ont caché le nom de la divinité maîtresse de leur salut, en voulant que les citoyens honorent tous les dieux, et non seulement celle-là? Je n'entrerai pas dans les détails de cette célèbre question, qui est expliquée de façon militaire, puis de façon morale. D'un côté, le nom de cette divinité ne pourra pas être utilisé par les ennemis dans un éventuel rite d'évocation de la divinité tutélaire de Rome, c'est ainsi que s'appelait le rite, l'évocation. On évoquait une divinité, comme les Romains l'ont fait par exemple devant Veï, Junon reine, ou à Carthage, où ils ont évoqué encore Héra et Junon, Sélestis de Carthage, au moment où ils ont pris la ville. De l'autre, en cachant le nom, explication morale, les autorités empêchaient que les Romains se détournent des autres divinités. Quel est le lien de cette question avec les précédentes? Il peut exister une relation avec Hercule, pour commencer. En effet, si l'on considère l'histoire d'Acalarentia, on peut arriver à ce résultat, car certains historiens modernes rapprochent Acalarentia d'un lieu appelé la Curia Aculeia. Dans ce local a lieu un sacrifice à une divinité dite Diva Angherona, le jour des Divalia ou des Angheronalia, le 21 décembre. C'est la déesse des jours étroits, des jours sombres comme c'est le cas aujourd'hui. Or, en ce même jour, un sacrifice est offert à Hercule et à Cérès. Mais Hercule et Cérès, ça me gêne un peu. Mais dans la mesure où il n'existe aucun texte qui rapproche, d'autre part, explicitement la Curia Aculeia et Acalarentia, je reste sceptique. Et le rapprochement linguistique avec Acca, Aculeia, même s'il y a deux C, ne me convainc pas, parce que c'est pas aussi simple la linguistique. Les sources nous apprennent uniquement que la Curia Aculeia et le tombeau d'Acalarentia étaient sans doute voisins. Je signale aussi en passant qu'il est toujours question, dans ces questions, de sexe masculin et féminin et de divinité. Cela peut tenir à la source de Plutarque, mais cela peut venir également du paysage religieux qui entoure l'auteur. C'est à ce paysage qui l'entoure et aux relations entre les questions que je veux m'intéresser. Donc deux liens peuvent être établis avec la topographie voisine du point où le lecteur se tient. Non pas par l'étymologie, Aculeia, Acalarentia ou le calendrier, mais par des rites. La tradition mythique située, en effet, au début du quartier appelé le Vélabre, derrière la maison des Vestales, presque au début du Vicus Tuscus, que nous connaissons bien désormais, donc à l'est du point où est censé se tenir le lecteur, assez loin. Donc les sources, la tradition rituelle, place à cet endroit un sacrifice d'Angherona. Sacrifice à Angherona, que j'ai déjà cité, soit dans la curie Aculeia, soit plus précisément encore dans la chapelle d'une déesse appelée Volupia. Est-ce que cette chapelle était dans la curie Aculeia? Sans doute, mais on ne sait rien de plus. Or, Angherona aurait été représentée avec un doigt sur sa bouche pour signifier, d'après les anciens, que son nom doit être tu. Nom secret. Angherona serait donc la protectrice secrète de Rome. Donc un rapprochement est possible avec cette statue et ce sacrifice qui était dans ce lieu, ou au moins cette tradition, mais on voit mal, une fois de plus, comment on passerait du Forum Boarium au début du Vélabre, presque sur le Forum. Donc j'exclus a priori cette possibilité. Mais je l'exclus parce qu'il en existe une autre. Dans la même direction, et beaucoup plus près, à l'angle nord-ouest du Palatin, l'auteur pouvait deviner, de l'endroit où il était, un lieu de culte où, sur ordre du Sénat, le préteur Gaius Calvinus avait consacré un autel à une divinité dite Civedeus Civedea, c'est-à-dire la divinité appelée soit Dieu, soit déesse. Donc c'est la même que celle dont parle Plutarque. De cette divinité, les Romains devinaient et supposaient l'existence, mais ils n'en connaissaient ni le nom, ni donc le sexe. C'est pourquoi ils lui donnaient le seul nom qu'elle pouvait porter, c'est-à-dire soit Dieu, soit déesse. L'autel dont j'ai reproduit la dédicace sur cette image est ancien, vous voyez, il date de 124 avant Jésus-Christ, et il est relativement grand. Le lieu de culte était donc public, puisque le Sénat, qui donne son autorisation, n'est-ce pas, est celui qui fait faire cela au préteur urbain. Et vous savez que le préteur urbain est, en général, à Rome, celui qui accomplit, surtout sous la République, le plus d'actes sacerdotaux, au vrai sens du terme. Donc, un autel public assez grand, assez ancien. Autrement dit, il y a de fortes chances que Plutarque, ou du moins les érudits chez qui il puise sa matière, en aient eu connaissance. Si la tradition concernant Angherona était plus solidement établie, et surtout si son lieu de culte se trouvait plus près du Forum Boarium, c'est volontiers l'explication que je retiendrai. Mais puisque tel n'est pas le cas, c'est cette deuxième solution que je retiens. Derrière tout cet enchaînement paraît exister toutefois une série de liens plus complexes, comme toujours. La question 60 faisait allusion au temple d'Hercule et des Muses. Hercule des Muses. Entre ce temple et l'auteur, vous voyez, on est placé à l'angle du temple de Fortune, disons, entre ce temple d'Hercule des Muses et l'auteur se trouvait le temple de Bellone avec la Columna Bellica. Bellone était la déesse des peines de la guerre. Elle était à côté du temple d'Apollon. Et la colonne de la guerre était un lieu où l'on déclarait rituellement la guerre aux ennemis, à partir du IIe siècle avant notre ère au moins, en tout cas à l'époque impériale. Nous y reviendrons. Cette perspective, jointe à la connotation triomphale et herculéenne, amène une question sur la défense de Rome. C'est tout à fait logique, celle du nom secret de la divinité qui veille sur la ville. Enfin, nous le verrons, la Columna Bellica permet aussi la transition à la question suivante, la question 62. N'oublions pas non plus, comme je l'ai déjà dit, que nous nous trouvons sur le parcours du triomphe, ce qui rend possible toujours des questions sur l'armée et sur son commandement. Nous avons eu une série de questions déjà auparavant. Question 62 donc. Pourquoi celui des Fessiaux, en grec faiseur de paix ou porteur de traité, qu'on appelait Pater Patratus, était-il considéré comme le plus important? C'est celui qui a son père en vie, même s'il a lui-même déjà des enfants. Un père qui est patré, en quelque sorte. Il possède encore aujourd'hui une sorte de privilège et de crédit. En effet, les prêteurs lui confient des personnes qui, en raison de leur beauté et de leur jeune âge, requièrent une surveillance attentive et discrète. Est-ce parce qu'on attache à ces hommes le fait qu'ils respectent leurs enfants et craignent leur père? Ou est-ce le nom qui en exprime la raison? Car Patratus signifie en quelque sorte quelque chose comme accompli ou et achevé, puisque celui dont le destin est d'avoir encore un père en devenant lui-même père est plus complet que celui des autres. Ou bien faut-il que celui qui préside au serment et à la paix spécial, regarde suivant Homère à la fois devant et derrière. Or, celui qui a un enfant pour lequel il prend des dispositions et un père avec l'aide duquel il décide, ferait cela au plus haut point. Il regarderait vers l'avant et vers l'arrière, du point de vue générationnel. J'ai déjà expliqué les liens topographiques de la question, c'est-à-dire la perspective vers le temple de Bellone, près duquel se trouvait cette colonne de la guerre, planté dans un morceau de terre ennemie, c'est-à-dire vendu au IIIe siècle au peuple romain par un prisonnier, il s'agissait d'un des soldats de Pyrrhus, dans laquelle, donc désormais, vendu à un prisonnier, et désormais, j'ai dit une bêtise, c'est pas le prisonnier qui vend ce bout de terre aux Romains, mais c'est les Romains qui vendent, sous la contrainte, ce bout de terrain à un prisonnier de Pyrrhus. Et désormais, c'est donc une terre étrangère, et c'est là que on déclare la guerre, c'est là que le Pater Patratus jetait une lance dans la terre pour signifier le début des hostilités. Donc, une forme, un simulacre rituel, puisque désormais, il n'était plus possible d'aller, de faire le voyage jusqu'aux frontières de l'État ennemi et d'y déclarer la guerre. Pas de déclarer la guerre, mais de signifier le début des hostilités par ce jet de lance. J'ai aussi rappelé que le lecteur imaginaire se trouve placé sur le parcours du triomphe, je le rappelle, et que donc un lien avec la question relative à la guerre serait normal. Mais la question suivante introduit un élément supplémentaire qui nous montre que ce n'est pas uniquement la guerre qui est en cause ici. Pourquoi est-il interdit à celui qu'on appelle « Rex Sacrorum » cela signifie « roi des cérémonies sacrées », d'exercer une magistrature et de s'adresser au peuple? Est-ce que jadis, les rois célébraient des cérémonies les plus nombreuses et les plus importantes et offraient les sacrifices avec les prêtres? Mais lorsqu'au lieu de se conduire avec modération, les rois furent pleins d'orgueil et tyranniques, la plupart des Grecs, après les avoir dépouillés de leur pouvoir, leur ont laissé seulement celui de sacrifier aux dieux. Les Romains, au contraire, chassèrent définitivement les rois et en créèrent un autre pour les sacrifices, sans lui permettre ni d'exercer une magistrature, ni de parler au peuple, afin que ce soit uniquement sur le plan religieux qu'il paraisse être gouverné par un roi, et supporter une monarchie à cause des dieux. Il existe en tout cas un sacrifice traditionnel à l'agora, près du lieu dit comitium, qui est célébré par le roi. Immédiatement après, celui-ci s'enfuit rapidement de l'agora, du forum, vous avez compris. Inutile de dire que la signification de ce rite, qui s'appelle en latin regi fugium, la fuite du roi, le 24 février, qui est mentionné à la fin de la proposition de Plutarque, est loin d'être résolue, même si l'on peut tout de suite écarter à nouveau l'interprétation de Herbert Rose, par exemple, qui hésite entre une fuite devant les mauvais esprits, telle que la voyait aussi Sam Aitrem, qui aimait un peu trop la magie pour pouvoir commenter ce type de texte, et une course pour la royauté. Faute de sources plus précises, il faut se résigner à ce que la question en elle-même reste à jamais ouverte, au point que l'on peut même supposer que toute l'histoire de la fuite des rois et de la survie d'une royauté rituelle est tirée du rite du regifugium. Intéressant est aussi le raisonnement comparatif de Plutarque. Les institutions royales grecques et romaines sont les mêmes, et leur évolution aussi, à cette différence près que les Grecs, c'est-à-dire les Athéniens avec leur archonte roi, auraient maintenu les rois en se contentant de les dégrader et de leur faire célébrer des sacrifices qu'ils devaient accomplir. Les Romains auraient au contraire chassé complètement les rois et auraient créé un nouveau roi, dont la fonction se limitait uniquement à ces quelques rites, et notamment à celui qui mettait en scène la fuite des rois. Mais ce n'est pas cela qui nous intéresse au premier point. Plutarque mentionne le comitium, où se déroule le rite en question. Faut-il supposer alors que le lecteur revient ou est revenu sur ses pas, et rejoint l'angle du forum? Cela permettrait de choisir, faire d'autres choix dans les questions précédentes. Mais comme nous l'avons vu déjà à plusieurs reprises, ce ne sont pas forcément les lieux explicitement nommés, comme ici le comitium et l'agora, qui nous informent sur l'ancrage topographique des questions. Ce n'est pas un petit jeu, n'est-ce pas, que Plutarque, à chaque fois qu'il cite un nom de lieu, ce n'est pas ce nom de lieu-là qui déclenche la question. Ça peut arriver, mais c'est très rare. En général, quand il utilise un lieu, eh bien, il ne le nomme pas. Nous parlerons de cela là, dans les conclusions, n'est-ce pas, de ce cours. C'est très, très amusant de noter cela. En tout cas, la suite des questions nous montrera que c'est bien le cas ici. La seule chose que nous pouvons relever consiste dans le thème qui relie les questions 62 et 63. Il s'agit dans les deux cas de vieilles fonctions rituelles, celle des fessiaux et celle du rex sacrorum. Les questions suivantes, justement, semblent poursuivre le même thème. La question 64 ne livre apparemment pas beaucoup d'informations. Pourquoi ne permettait-il pas que la table fût enlevée vide, mais seulement quand il y restait quelque chose? Est-ce pour laisser entendre qu'il faut toujours conserver quelque chose du présent pour le futur et se rappeler aujourd'hui le lendemain? Ou bien considérait-il de bon goût de se restreindre et de retenir l'appétit quand il est encore possible de le satisfaire? Car ceux qui sont habitués à s'abstenir de ce qu'ils ont désirent moins fortement ce qu'ils n'ont pas. Ou bien est-ce que la coutume était une marque de gentillesse à l'égard des esclaves? Car ceux-ci préfèrent participer plutôt que de recevoir, vu qu'ils pensent qu'ils partagent en quelque sorte la table de leur maître. Ou bien faut-il éviter qu'une chose sacrée apparaisse vide? Or, la table est sacrée. On pourrait supposer que le sacrifice mentionné à la question précédente déterminait ici une question sur le banquet. Mais je pense que ce serait trop simple, parce que la question 63 évoque certes un sacrifice, et donc quelque part aussi un banquet sacrificiel, mais elle porte moins sur ce sacrifice que sur le rôle même du rex sacrificium, sur ses comportements, sur son statut. Plus important me paraît ceci. Au cours de l'introduction de notre promenade, j'ai cité, vous vous rappelez sans doute, cette question en montrant qu'on la retrouvait sous forme de dialogue dans les problèmes de banquet 7-4 de Plutarque. Dans ce texte, la discussion part de l'usage qui consiste à ne jamais laisser s'éteindre une lampe. Après plusieurs arguments, Plutarque, qui parle à la première personne dans les banquets, les problèmes de banquet, donne certains arguments qui invoquent le parallèle de la nourriture qu'on laisse sur la table, dans l'intérêt de ceux qui pourraient en avoir besoin. Il en irait de même pour la lampe, c'est-à-dire pour le feu, à qui les Romains n'enlèvent pas la nourriture quand ils ont fini leurs activités. Cette intervention permet aux convives de passer à la question de la table, et des restes de nourriture qu'il fallait y laisser. Bref, ils en reviennent au thème de la question 64. Vous constatez que l'ordre des arguments est le même, à l'exception de l'argument A, si vous voulez, du premier, de celui qui concerne les esclaves, qui ouvre le débat, par une sorte de plaisanterie, dans les problèmes de table, mais se trouve à la troisième place dans les questions. Les arguments, vous le voyez, sont au nombre de 4. A, il faut laisser pour les esclaves quelque chose pour les faire participer. La deuxième possibilité d'explication, c'est il faut laisser pour le futur et se rappeler au jour présent le lendemain. Troisième explication, il faut retenir son appétit, car ainsi on apprend à désirer moins fortement ce qu'on n'a pas. Des avantages du jeûne. Et enfin, dernière explication, on ne doit pas laisser vide une chose sacrée. Or, la table est sacrée. Le seul élément qui pourrait renvoyer à la topographie dans cet ensemble d'arguments se retrouve en fait dans les problèmes de banquet, puisqu'il est dit explicitement. Dans le dernier argument, en effet, qui évoque la rotondité de la terre et renvoie au foyer, c'est-à-dire au foyer de Vesta, foyer public, foyer et rotondité de la terre qui sont mises en relation avec la table, n'est-ce pas? On pourrait trouver une allusion topographique et qui permettrait même de relier table et feu, n'est-ce pas? C'est une possibilité, mais l'allusion est complètement absente dans les questions romaines et elle serait au moins sous-entendue, implicite. Si nous décidons que nous sommes au forum, évidemment, bravo, nous aurions un bel argument. Mais bon, retenons pour l'instant que d'après les problèmes de banquet, la question est double et concerne à la fois, chez Plutarque ou dans ses fiches, les lampes et la nourriture. Sur quoi porte la 65e question? Pourquoi le mari approche-t-il la première fois son épouse sans lumière, dans l'obscurité? Sans lampe, donc. Est-ce parce qu'il l'approche avec pudeur en considérant qu'elle est une étrangère, tant qu'il ne s'est pas uni à elle? Ou bien, de même que Solon a prescrit à la mariée d'aller dans la chambre nuptiale après avoir avalé du coin, afin que le premier embrassement ne fût pas déplaisant ou désagréable? Le législateur romain dissimulait-il au regard ce que le corps pouvait présenter de laid et d'imparfait? Ou bien cette conduite exprime-t-elle une aversion pour les plaisirs des amours illicites, dans la mesure où elle entoure même les amours licites de pudeur, de honte? Comme je l'ai dit lors du premier cours, cette question nous révèle un aspect de la composition des questions romaines. Il est évident que la fiche de Plutarque, pour ainsi dire, comportait la double discussion qu'il donne dans les problèmes de table. Dans les questions romaines, il commence par le deuxième argument qui concerne la nourriture laissée sur la table et continue par le premier aspect, la lampe, dans la question suivante. Si nous ne connaissions que les questions romaines, nous serions bien embarrassés pour expliquer le passage de la question 63 à la question 64. Il est clair que l'auteur laisse implicite toute une série d'éléments qui lui ont permis de composer l'ouvrage et qui déterminent son plan. Cette question 65 doit donc être considérée comme une digression à partir de la coutume décrite précédemment. Mais nous ne sommes toujours pas en mesure de rattacher cette digression aux questions concernant les fessiaux et les rex sacrorum. Continuons donc la lecture pour voir ce que ça nous donne. Parce que quand nous avons un texte sous-jacent, souvent il faut lire un peu plus pour comprendre comment les arguments et les questions s'articulent. La question 66 se réfère à un lieu spécifique. Pourquoi l'un des hippodromes s'appelle-t-il Flaminius? Est-ce parce que quand un certain Flaminius légua, il y a longtemps, une terre à la cité, ils en utilisèrent les revenus pour les jeux hippiques? Et comme il restait encore de l'argent, ils construisirent une route qu'ils appelèrent également Flaminia, la Via Flaminia. La question est déroutante pour un lecteur actuel. C'est un bon exemple de la manière dont travaillent les érudits de l'Antiquité. Le nom du cirque Flaminius n'a en effet absolument rien de mystérieux. Il s'appelle ainsi parce que celui qui l'a construit est le célèbre Gaius Flaminius, qui fut défait par Hannibal et tué en 217 avant Jésus-Christ au lac Trasimène. Il a construit le cirque, on le sait, en 221, et la voie Flaminia à partir de 220. La question, en revanche, ressemble à une de ces spéculations étymologiques, telles que vous en avez déjà entendu quelques-unes ici, qui font totalement fi de l'histoire, après l'avoir exposée. Ils font fi de l'histoire et ont pour objectif d'examiner tous les aspects d'un terme. Or, nous avons conservé d'autres traces de ce type de spéculation sur le terme Flaminius. Alors que Festus, le grammairien Festus du IIe siècle, qui est conservé par le résumé de Paul Diacre, paraît avoir donné l'explication historique, pour ainsi dire banale, du terme Flaminius, puisqu'il la réfère tout à fait exactement au consul Flaminius, d'autres cherchaient un peu plus loin. Ainsi, Varron, mais Festus cite vraisemblablement des développements que nous n'avons plus de Varron, c'est souvent Varron qui est à l'origine de tout cela. Varron ainsi écrit dans son traité de la langue latine 554 à propos des noms des différents cirques de Rome, à une raison analogue, je cite, le cirque Flaminius doit également son nom parce qu'il est construit autour circum du Flaminius Campus. Circus, vous voyez, prend même une étymologie, c'est ce qui entoure quelque chose. Et que là aussi, au Ludi Tauri, les jeux font la course en tournant autour circum des bornes. D'après cette explication, Flaminius était simplement le nom du terrain, appelé Campus Flaminius, champ flaminien. Tite Live, qui connaissait parfaitement l'origine historique du cirque, rapporte que les pré-flaminiens, les prata flaminia, s'appellent maintenant cirque Flaminius, et que par ailleurs ils se trouvaient entre le Capitole et le Tibre, là où se trouve à l'époque historique le temple d'Apollon et le cirque Flaminius, et notre temple de Bellone aussi. Citant un texte de l'historien chrétien Orose à propos de la guerre sociale de 80 avant Jésus-Christ, qui établit que les prêtres romains, les pontifes, les augures, les décemvirs et les flamines possédaient des terrains tout autour du Capitole, Filippo Coarelli a suggéré que les prata flaminia, les pré-flaminiens, étaient en fait les pré-des-flamines. Ce seraient ces fameux pré-des-flamines dont parle Orose. Ce serait là le premier nom du lieu qui aurait également donné son nom au champ, au Campus Flaminien. Le consul Gaius Flaminius, quant à lui, aurait construit son cirque à cet endroit en liant par le même jeu étymologique sa famille à ce lieu. Il fallait qu'il trouve un endroit pour un cirque, il a pris celui-là, qui renvoyait déjà à sa famille. Plutarque paraît reproduire cette tradition ou un élément de celle-ci quand il explique le nom du cirque par le fait que les revenus d'un terrain légué à la cité par un certain Flaminius auraient produit une somme suffisante pour organiser des courses et même pour construire la route du même nom. Il ne s'agit plus d'un cirque, mais d'un terrain. Il ne s'agit plus de Gaius Flaminius, mais d'un Flaminius quelconque. Cette version de l'étymologie, qui peut être celle qui renvoyait aux ancêtres de Gaius Flaminius, est apparemment la même que celle que cite Orose. Un lieu public, donné par un Flaminius, et non donné aux Flamines, ce serait une alternative, si vous voulez, un autre terme dans l'alternative, qui est à l'origine des cirques et des jeux. Si cette reconstruction est exacte, la question pourrait être extraite d'une source traitant des Flamines, donc des prêtrises anciennes, ce qui confirmerait une fois de plus l'opinion émise plus haut. Rose, Herbert Rose, a en effet soupçonné l'existence d'une source commune derrière 45 questions, dont la nôtre. Cette source pourrait être le grammairien Verrius Flaccus, qui souvent condense des données de Varron. Verrius Flaccus, que nous connaissons par l'abrégé de Festus, lui-même résumé à l'époque de Charlemagne par Paul Diacre. La question 66 est toutefois troublante, parce qu'il paraît étrange que Verrius Flaccus et ou Plutarque aient désigné Gaius Flaminius par le terme Tinos ton palaion, quelqu'un des temps anciens. On objectera toutefois que d'après Paul Diacre, Festus et Verrius Flaccus évoquaient bien Gaius Flaminius, mais que rien n'exclut que Verrius Flaccus, par exemple, ait donné une notice nettement plus longue qui comprenait également d'autres interprétations du nom. Il y a eu la tradition historique, puis la tradition d'un certain Flaminius, puis la tradition des Flamines. En tout cas, le fait que le Circus Flaminius se trouve un peu au nord-ouest du temple de Bellone, vers lequel nous sommes censés regarder dans la question 61, ou mieux encore, le fait que les pratas, les prés des Flamines, se trouvent exactement à l'endroit où se dresse le temple de Bellone, peut participer à l'ancrage de la question dans notre voisinage. Mais ce n'est pas nécessaire si nous sommes dans une digression due notamment à une source qui inspire Plutarque. La 67e question confirme cette présomption. Pourquoi appelle-t-il les porte-faisceaux licteurs? Première vue, n'est-ce pas, de nouveau, surprise, comment en arrive-t-il à ce point? Est-ce parce que ceux qui liaient ceux qui causaient des désordres et escortaient Romulus en emportant des courroies dans les plis de leurs vêtements, pour lier les fauteurs de troubles? La plupart des Romains disent « lié à ligare », mais les puristes du langage disent « ligare ». Ou bien est-ce parce que le kappa s'y trouve inclus aujourd'hui, mais qu'auparavant on prononçait « litores » et non pas « lictores », hein? Ce qui signifie « personne qui remplisse une fonction publique pour la cité ». Le fait que jusqu'à ce jour le public est exprimé par « leiton » dans de nombreuses lois des Grecs, n'a échappé, pour ainsi dire, à personne. Plutarque donne donc les mêmes explications que dans la vie de Romulus 26-3-4. La première des étymologies se trouve sous des formes différentes. Ligare et lié concerne soit les courroies des licteurs servant à lier les délinquants, soit les liens entourant leurs faisceaux de bâtons, de verges. Chez d'autres auteurs, notamment Festus, ou par exemple Olugel, Gellius, Aulus Gellius, vous avez l'ensemble de cette tradition. Nous avions présumé que la question précédente, qui traitait du Cirque Flaminius, provenait d'une source qui examinait des problèmes liés aux Flamines, c'est-à-dire aux prêtres anciens de Rome. Or, la question 67 traite des licteurs. Pour comprendre que ce thème, choisi par Plutarque, confirme l'hypothèse que j'ai émise, il suffit de se rappeler qu'il existait, parmi les vieilles institutions, celle du licteur de Flamine, le Flaminius Lictor. Cette fonction est donnée par Paul Diacre, c'est-à-dire il a tiré la définition de Pompeius Festus, qu'il a prise chez Verrius Flaccus, qu'il a sans doute prise chez Varron, etc. Or, Verrius Flaccus est précisément la source que Rose et d'autres, et on peut les suivre sur cela sans problème, soupçonnaient à l'arrière-plan des questions sur tous ces prêtres. Le Pater Patratus d'Ephesio, à la question 62, qu'on retrouve dans Festus sous le terme Pater Patrimus, même chose que Patratus. Le roi Sacrificulus de Festus, qu'on trouve avec notre roi des rites sacrés à la question 63, le Circus Flaminius de la question 66, puis le Circus Flaminius toujours chez Festus, Paul Diacre, Pauli Festus, et maintenant, 67e question, le licteur, et 82, le Flaminius Lictor. On a l'impression que toute une série de définitions tirées de ces dictionnaires ou de leurs sources se retrouve dans notre texte. Je dirais donc que nous sommes toujours dans une digression ici sur les vieilles prêtrises et fonctions qui est partie du temple de Bellon et de la voie triomphale et qui est soutenue par la proximité du cirque Flaminius et des Prata Flaminia. La question suivante s'intègre parfaitement dans ce contexte. Pourquoi les Luperques sacrifient-ils un chien? Les Luperques sont ceux qui, au Lupercal, courent partout, dévêtus, en paille, et frappent ceux qu'ils rencontrent avec une lanière de cuir. Est-ce parce que le rituel est un sacrifice purificatoire de la cité? En effet, ils appellent ce mois Februarius, et surtout par Zeus, ce jour-là, Febratus et Febrari, au lieu de Februari et Februatus, le fait d'être frappé avec une sorte de lanière. Le terme signifie purifier, februari, purifier, et frapper d'une sorte de lanière. Quand je reprends la lecture de Plutarque. Quant au chien, presque tous les Grecs, pour ainsi dire, l'utilisaient comme victime pour les purifications, et quelques-uns l'emploient encore de nos jours. À Hécate, la déesse infernale, aussi on porte des chiots avec les autres substances purificatoires, et on purifie en les frottant avec de petits chiens, ceux qui ont besoin d'une purification, en appelant ce genre de purification perisculacismos. Ou bien le terme lupus, dans Luperque, hein, signifie-t-il loup, et les Lupercales sont-ils la fête des loups? Or, le chien est l'ennemi du loup, et est-ce pour cette raison qu'il est sacrifié lors des Lucaya, la fête du loup? Ou bien est-ce parce que les chiens aboient contre les Luperques et les incommodent quand ils courent à travers la ville? L'explication assez jolie. Ou bien est-ce que le sacrifice est offert à Pan, Faunus, hein, et que le chien est une chose chère à Pan à cause de ses troupeaux de chèvres? Cette analyse donne un bel exemple de la manière dont Plutarque organise ses explications. Il part du mois de la fête, Februarius, et des termes qui y sont liés, februare, etc., purifié. Or, les chiots sont purificatoires, notamment en pays grec. Puis il prend comme point de départ le nom de la fête, Lupercale, et la rapproche des loups, dont les chiens sont les ennemis. Puis il laisse le mois et la fête, mais il envisage ceux qui exécutent le rite, les Luperques eux-mêmes, qui sont incommodés par les chiens qui leur courent après quand ils font leur procession courante. Enfin, il renverse le point de vue en introduisant la théologie et l'affection pour les chiens, ce qui aboutit au dieu Pan, qui aime les chiens en tant que dieu berger, et qui les reçoit donc volontiers en offrande.
A time to sow, a time to reap. Yes, my friend, you see the soul, that's what you shall reap by being a bear. You light the fire to burn this naya, but it no work out. You're just a weak out, you send a big neck police friend to come cool I up. But it never work. For Jaja walk right in and cool up the scene. You get a jerk. For better to the trust in Jah. Shall be like Mount Zion high. That shall never remove an eye. But abide it for right Jaja. The night that I speak the sheep, I go speak the goats. Do you hear? How you gonna feel when the knife is at your throat? For sowing bring reaping, and reaping is harvest. The seed that you sow, yeah, that's what you shall reap, yeah.
C'était Éloge du savoir, Aujourd'hui, le Collège de France avec John Shedd. Réalisation Thomas Duterre. Présentation Christine Goémé. Whom shall I fear? Jadi prokecha of my life. Of whom shall I be afraid? Hypocrite in a bright light. Parasite in a dim light. Dreadlocks in moonlight. Pallid at sunrise. Oh! Jaja is a shepherd, I shall not want. Do you hear? Do you see? Jaja is a shepherd, I shall not want. It's in your peace.
Allô? C'est Catherine du bureau, elle demande pourquoi t'es pas au cocktail du point soleil.
À ton avis? Ah, c'est dingue que tu te sois pas rendu compte. Ah, ça va, je suis pas à leur disposition.
Il est pas à votre disposition.
Ok, laissez-le faire foutre.
Allez vous faire foutre.
Tu leur as dit? Mais t'es quoi, de m'en cingler, c'est pas possible.
Pardon. Je sais pas ce qui m'a pris.
France Culture présente, de particulier à particulier, un film de Brice Covin avec Hélène Filière, Laurent Lucas, Anouk Aimée et Julie Gaillet.
On vient de déposer nos enfants à la campagne, on part demain.
Vous allez où?
À Venise.
L'histoire d'un drôle de couple qui s'apprête à partir en voyage mais qui n'a plus envie d'y aller.
Ah, mais on sait comment c'est, Venise, le Pont des Soupirs, la place Saint-Marc, les gondoles, on n'a pas besoin de les voir pour savoir comment c'est.
Qui veut déménager mais ne sait plus très bien pourquoi, où, ni comment. L'histoire d'un homme et d'une femme qui s'égarent chacun de leur côté pour mieux se retrouver. De particulier à particulier.
Tu bosses ou quoi?
Une comédie de Brice Covin. En salle le 19 avril, à retrouver dans les émissions de France Culture.
Ça suffit maintenant, j'en ai assez!
Retrouvez tous les mois une sélection des programmes de France Culture dans le nouveau mensuel gratuit d'information culturelle, conférences et débats, l'agenda des savoirs et des idées, 1000 événements répertoriés pour assouvir toute votre curiosité. Diffusion sur Paris et en région parisienne. Toutes les informations sur franceculture.com. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture.
Bonjour, votre matinée sur France Culture. 9h05, la nouvelle fabrique de l'histoire. Cette semaine, les amitiés intellectuelles. Et ce matin, Sorbonne Plage pour évoquer le lieu dit l'Arquest en Bretagne, qui en 1900 devint le lieu de villégiature d'un groupe d'intellectuels dreyfusards, laïcs, républicains, une famille de pensée qui s'élargit au fil des années, un lieu toujours actuel. 10h, le temps des humanités s'ouvre sur les lundis de l'histoire et aujourd'hui c'est au tour du livre de Marc Bloch, L'histoire, la guerre, la résistance, publié chez Gallimard. 11h, fiction au feuilleton, Lettres d'Engadine de Franck Venaille. 10 épisodes à suivre dès aujourd'hui. Une évocation des sentiers de montagne, de bord de lac, d'un paysage métaphysique peuplé d'ombre, à travers le courrier qu'un voyageur rédige et expédie chaque jour depuis l'Engadine, vallée du canton des Grisons en Suisse. 11h30, les chemins de la connaissance serpentent cette semaine autour des dragons, gargouilles et tarasques que nous offre en exposition et jusqu'au 6 novembre le Muséum d'Histoire Naturelle. Un voyage entre ombre et lumière, merveille et terreur. Invité ce matin, Frédéric Canard, commissaire exécutif et chef de projet de l'exposition Les Dragons entre science et fiction au Muséum d'Histoire Naturelle et co-auteur de Les Dragons publié chez Gallimard. Et tout de suite, les matins de France Culture se lèvent avec Nicolas Demorand.
Bonjour à tous et bienvenue sur France Culture. Lundi 17 avril 2006, lundi de Pâques, jour férié, sauf pour les journalistes radio, les taxis et quelques milliers d'autres professions. Tout de même, le programme donc de l'émission ce matin, le métier de chroniqueur d'ailleurs aussi, Olivier Passeret. Le programme donc de l'émission ce matin à 7h20, les enjeux internationaux. Pourquoi et comment la Chine s'intéresse-t-elle de plus en plus à l'Afrique noire? 7h40, dialogue avec l'historien Georges Bensoussan. Ses travaux portent sur l'histoire du sionisme et depuis quelques années sur la Shoah. Il dirige la revue d'histoire de la Shoah. Il a beaucoup réfléchi aux manières d'enseigner cet événement majeur de l'histoire et à la vaste, la complexe question de la mémoire qui nous relie à l'extermination des Juifs d'Europe. Europe, c'est justement sur ce lieu, sur cette terre, que Georges Bensoussan braque les analyses de son dernier livre. Europe des Lumières, bien entendu, mais aussi des anti-lumières. Europe de la guerre, du meurtre de masse, Europe de l'héritage. héritage médiéval et chrétien. Tous ces éléments qui, sur des siècles et avec une vertigineuse accélération à partir de 1914, finissent par rendre possible la Shoah. Le livre de Georges Bensoussan s'appelle « Europe, une passion génocidaire, essai d'histoire culturelle ». Il est publié chez Mille et Une Nuits. On en parle avec son auteur tout à l'heure. Il est 7h. Et le premier journal de la matinée, c'est avec Renaud Candelier. Bonjour Renaud.
Bonjour, les pays arabes courtisés par les Palestiniens qui cherchent des finances et rassurés par l'ancien président iranien à propos du dossier nucléaire et de ses conséquences pour la région. Nous rejoindrons nos deux correspondants à Doha et à Téhéran. Le Tchad multiplie les pressions en direction de l'ONU et de l'Union africaine. La menace d'expulser de son territoire les nombreux réfugiés soudanais inquiète le Haut Commissariat aux réfugiés. Reporters sans frontières pointe les responsabilités du gouvernement français dans la lenteur de l'enquête sur la disparition du journaliste Guy-André Kiefer. Vous entendrez Léonard Vincent, il insiste sur la nécessité de se mobiliser. Enfin, au lendemain d'un week-end d'opposition au nucléaire à Cherbourg, c'est en Grande-Bretagne que le sujet fait polémique. Un rapport parlementaire vient troubler les projets de Tony Blair. Explication de Christian Roudot. L'autorité palestinienne toujours à la recherche de finances chez ses voisins. Le chef de la diplomatie poursuit ses visites avec l'Arabie Saoudite aujourd'hui. L'Iran a décidé hier d'une aide de 50 millions d'euros au gouvernement palestinien. 50 millions, c'est aussi l'équivalent des taxes habituellement reversées par Israël chaque mois, mais suspendues depuis fin janvier après la victoire électorale du Hamas. Cette aide fait craindre aux Occidentaux un regain d'influence de Téhéran sur les Palestiniens. Siavosh Ghazi.
Principal allié du Hamas, l'Iran a annoncé une aide de 50 millions de dollars au gouvernement palestinien. Cette annonce intervient après la décision des États-Unis et des pays européens d'arrêter leur aide au gouvernement palestinien après la victoire du Hamas aux élections et la formation d'un gouvernement islamiste. L'Iran a aussi appelé les autres pays musulmans à aider financièrement le gouvernement palestinien pour remplacer l'aide occidentale. L'Union européenne, qui a apporté une aide annuelle de 500 millions d'euros au gouvernement palestinien, a demandé à Hamas de reconnaître Israël et de renoncer à la lutte armée pour maintenir cette aide. Le gouvernement palestinien a besoin de 175 millions de dollars par mois pour payer les salaires des fonctionnaires palestiniens. Soutenu par l'Iran, le chef du Hamas, Khaled Meshaal, a déclaré depuis Téhéran où il se trouve que son mouvement ne cédera pas aux pressions des Occidentaux qui, en coupant leur aide, veulent obliger le Hamas à reconnaître Israël. L'Iran, qui soutient les groupes islamistes palestiniens, ne reconnaît pas Israël. D'ailleurs, le président iranien, qui avait déclaré qu'Israël devait être rayé de la carte, a de nouveau répété ses propos controversés en affirmant que l'État hébreu était en voie de disparition.
Les craintes occidentales portent aussi sur les prétentions nucléaires de l'Iran. L'ONU lui a donné jusqu'au 28 avril pour suspendre l'enrichissement d'uranium, mais Téhéran s'est présenté en position de force hier. Le gouvernement affirme avoir le soutien de plusieurs milliers de volontaires prêts au martyr en cas d'attaque américaine. Dans ce contexte, l'ancien président iranien a débuté hier une visite de 2 jours au Koweït. Rafsanjani tente de rassurer les pays arabes qui s'inquiètent des conséquences d'un conflit en Iran. Aurélien Colli.
Bienvenue Rafsanjani, titré dimanche le principal journal du Koweït, Al-Kabas, en accolant un « mais » révélateur des inquiétudes qui traversent toute la péninsule arabique. Nous disons « mais » car nos frères iraniens nous ont placés dans la ligne de confrontation, expliquait l'éditorialiste à quelques heures de l'arrivée de Rafsanjani. Une confrontation dont nous pourrions devenir les principales victimes, nous les Koweïtiens, nous les pays arabes du Golfe, désormais pris entre le marteau et l'enclume, entre l'allié américain et le voisin direct iranien. Principale crainte, être bien sûr la cible de représailles en cas de frappe contre l'Iran. La plupart des monarchies pétrolières accueillent sur leur territoire des installations militaires américaines à portée de missiles iraniens, citant des diplomates arabes. Le quotidien Al-Kabas confirmait que cette option était envisagée par Téhéran. Mais avant d'en arriver à ce scénario de l'affrontement militaire, les pays du Golfe ont aussi d'autres motifs d'inquiétude que les autorités koweïtiennes ne manqueront pas de signaler à leurs hôtes. D'abord, les menaces iraniennes de bloquer le détroit d'Ormuz, la porte d'entrée du Golfe, par lequel transitent 40% du pétrole mondial et toutes les marchandises à destination de leurs ports. La crainte ensuite d'un simple accident nucléaire dans la centrale de Bushehr, très proche des eaux du Golfe. Une catastrophe pour les États de la péninsule dont les populations vivent de la désalinisation de ces eaux.
En Irak, si l'alliance chiite majoritaire au Parlement a trouvé un accord pour remplacer Ibrahim Jaafari au poste de Premier ministre, la formation du gouvernement ne devrait pas intervenir avant un mois. Il y a d'autres postes stratégiques à pourvoir, comme ceux de président irakien et celui de président du Parlement. Et puis hier, une vingtaine de personnes sont mortes, dont 10 dans un attentat à la voiture piégée près d'une mosquée au sud de Bagdad. La situation de l'armée américaine en Irak tourne à la polémique sur la responsabilité de Donald Rumsfeld. Sa démission est maintenant réclamée par l'opposition démocrate après les prises d'opposition de plusieurs généraux à la retraite. En revanche, hier, l'ancien plus haut gradé de l'armée lui a apporté son soutien. Le procès de Zacharias Moussaoui entre dans sa dernière semaine avant la délibération du jury pour décider ou non de sa